Bonjour.
Bonjour et bienvenue les amis du petit déjeuner de nous retrouver en ce dimanche matin.
Bonjour,
bonjour Sandrine. Pour un hebdo extraordinaire, on va vous parler de tout. Oh putain, ça commence. On va vous parler de tout, des petites 350 et la fameuse HNES ou CB350 chez Honda, mais aussi...
de Trail.
Avec eh bien, une marque que vous commencez à connaître parce qu'on vous en parle depuis longtemps.
On commence par un cas. Ah bah oui, bah c'est...
Eh bien oui, du petit roadster de moyenne cylindrée. Ça, c'est vraiment super sympa.
Du cross.
Eh bien oui, il y a des marques que l'on n'imaginait pas arriver dans le cross, notamment Triumph dernièrement. Mais là, on va vous parler d'une marque italienne. Et puis, on va vous parler d'une petite sportive.
La Benelli. Tornado.
Et oui, 400, encore une fois, ces petites cylindrées, on va vous en reparler beaucoup dans les semaines à venir parce qu'il y a plein d'essais de 400 cm3. Allez,
c'est parti. Bon, avant tout, un petit retour, un petit clin d'œil dans le rétroviseur, année 94.
Et il y avait encore plein de choses cette année-là, notamment en termes de musique.
Et oui, I Stand By You.
Pretenders.
Zombie.
The Cranberries.
7 Seconds, avec mon French accent.
Youssou N'Dour et Néné Chéri.
Can You Feel The Love Tonight.
Avec fabuleux Elton John.
Yes. Love Is All Around. Ah,
avec
si c'était vrai.
Wet, oui, ce serait formidable.
Kiss From A Rose.
Seal. Ah, franchement, les albums de ce chanteur. A Girl Like You.
Ah bon? D'Edwin Collins. All I Wanna Do.
De Sheryl Crow. Ah oui, c'est vraiment tout ce qu'on veut.
Et puis un peu de français avec Chacun Sa Route.
Et puis surtout The Most Beautiful Girl In The World.
Ouais.
Prince.
On peut toujours aimer, hein. Et You Gotta Be.
Des Desiree.
Côté film.
Un film mythique, ouais, qui repasse régulièrement à la télé, on ne s'en lasse jamais. Forrest Gump.
Pulp Fiction, on s'en
dans
lasse.
Dans la même série, voilà, on ne s'en lasse pas non plus. Une Palme d'Or du Festival de Cannes.
Le troisième non plus, Léon de Luc Besson.
Eh oui, il y a des tueurs partout.
Stargate.
Ah, la porte des étoiles.
Celui-là, on pourrait s'en passer.
Non, il était bien quand même. Ce premier numéro était juste fabuleux.
4 mariages et un enterrement.
Ah bah, c'est pareil, ça fait partie des films historiques qu'il faut avoir vus désormais.
Un indien dans la ville.
Et puis, Les Légendes d'automne, et bah surtout à cause de Anthony Hopkins, qui est juste ressorti la semaine dernière au cinéma, avec un film qu'on vous recommande d'aller voir, Une vie.
Et The Mask. Côté série télé, Friends, incontournable.
Absolument incontournable, tout autant que Urgence, qui a peut-être été l'une des séries qui a déclenché toutes les séries hospitalières.
Et puis, c'est pas tout à fait une série, mais une super émission avec C'est pas sorcier.
Et suivi de, sans absolument aucun rapport, Les enfants de la télé, que l'on retrouve encore aujourd'hui. Et puis, deux séries, vous nous direz si vous les connaissiez. Nous, on les a découvertes, mais apparemment, elles étaient hyper importantes. Et un certain nombre d'entre vous, la semaine dernière, nous ont dit « Ah, mais cette série-là, qui pourtant nous paraissait très, très connue, on n'en a jamais entendu parler. Bah, » Les deux prochaines, c'est Code Lisa.
Et Angela, 15 ans.
Et ben voilà, à vous de nous dire.
On était trop vieux. Côté date, l'inauguration du tunnel sous la Manche.
Oui.
Pour une Europe unifiée, n'est-ce pas?
Non, ça c'est un sujet politique, ça.
La création d'Amazon par Jeff Bezos. Je ne sais pas si c'est...
C'est une grande date, en tout cas, ouais, vu le monstre que c'est devenu aujourd'hui. Et puis, une dernière émission qui a fait date dans les annales.
Ça se discute de Delarue. Allez, côté moto, on retrouve nos champions. Avec un petit changement, en 94, au niveau du MotoGP, c'est Michael Doohan qui
sur
gagne
Honda.
Sur Honda. Et en endurance moto,
eh ben, Adrien Morillas, pilote particulièrement connu, puisqu'il a donné également plein de stages de pilotage dont vous pouvez retrouver des extraits ou des reportages sur le repère des motards, sur Kawasaki.
Alors, côté moto.
Ah oui, alors là, la liste est très très longue. Accrochez-vous.
La Barigo Onixa 600.
Une première routière de cette petite marque, équipée d'un petit mono de 599 cm3 Rotax, s'il vous plaît, comme les précédents modèles Trail et SM.
Et c'était une marque française en plus. Bimota YB9 SR.
Eh oui, le retour de Bimota que l'on voit depuis quelques années dans le giron de Kawasaki, même si on aimerait bien aller les essayer.
La BMW F650 GS.
Construite par Aprilia avec un monocylindre 652 cm3 à double arbre à cam et 4 soupapes. Ben oui, il n'y a rien d'autre à dire.
La Kajiva Elephant 750 qui revient.
Et puis la Ducati M600 Monster, sans oublier la Supersport 600. Et puis, un modèle mythique en termes de ligne, la 916.
Chez Harley Davidson, eh bien, il y a l'Electra Glide 1340 Road King.
Et puis, alors, c'était les noms impossibles à retenir à l'époque avec les FXDL 1340 Lowrider.
La Honda RVF 750R RC45.
Et puis surtout la Kawasaki ZX9R. Et je me rappelle très très bien arriver devant une concession pour avoir réservé un essai de moto. À l'époque, j'étais en 125. Je descends, je gare ma 125 devant la concession. Et on me dit, vous voulez plutôt essayer la 600 ou la 900? Sachant que je n'avais jamais conduit à l'époque autre chose qu'une 125, je me suis dit que le gars était un peu cintré quand même. J'ai pris la 600. J'ose même pas dire les vitesses que l'on a eues. C'est il y a prescription depuis en ville. Mais lui, avec la ZX9R devant, il était en wheeling, à Donf. En fait, heureusement qu'on ne voit plus ça en ville aujourd'hui.
La KTM GS620 LC4.
Et puis derrière, la moto Guzzi et la Strada 750 E1000 Strada, dont on va vous reparler bientôt, parce qu'après la Stelvio, y a aussi une V85 Strada qui est en train d'arriver.
La Muse Scorpion Sport et la Scorpion Tour 660.
Et puis derrière, une Suzuki RF900R.
Une Triumph Speed Triple 900.
Eh bien oui, la première génération de cette moto mythique qui continue jusqu'à nos jours.
Et enfin, la Yamaha FZR600R.
Et surtout, la XJ900 Diversion. Et oui, après la 600 Diversion dont on vous avait parlé la fois dernière, quand il fallait monter avec une vraie grosse routière et bon sang le nombre de kilomètres, tous les propriétaires que j'ai vus ont fait des dizaines, voire plus de 100 000 kilomètres avec ces 900 Diversions en parcourant toute la France, dont certains membres du repère des motards. Chapeau.
Alors, première actualité de la semaine, c'est chez Honda, avec la Honda CB350.
Et oui, on vous en parle depuis 2 ans, la fameuse HNES qui a été présentée initialement en Inde, mais qui a fait un tel tabac autour du monde qu'on a continué à vous en parler après, parce qu'ils les ont sortis, les ont déclinés. Et là, Honda travaille activement sur des nouvelles déclinaisons avec ce même moteur et ce même châssis.
Bien sûr, après le Roadster, c'est logique d'avoir un Trail et un Scrambler. Pour concurrencer notamment les fameuses Royal Enfield Meteor et HNTR qui ont été sorties cette année.
Et oui, la fameuse Hunter, dont ils ont supprimé le nom Hunter pour HNTR, pour l'abréviation. Une petite histoire de droit encore.
Alors en fait, ces modèles s'appuient bien sûr sur la mécanique de la CB350, mais au niveau du design, c'est vraiment un style néo-rétro de type trail qui rappelle clairement le style de la fameuse indienne Himalayan 410, pour ne pas la nommer. On a un phare avant rond, une fourche télescopique à souffler, un double amortisseur arrière, un garde-boue en position haute et même des barres de renfort avant qui servent aussi de support à l'habillage et à la bulle. Il y a une forte ressemblance, effectivement.
Et puis, on vous a parlé des speeds et des scramblers 400 chez Triumph. Honda va un peu dans cette même direction. Et l'idée, c'est d'avoir également une petite déclinaison scrambler de cette CB350.
Donc là, on a une base assez similaire au Roadster, mais dépourvue de bulles, avec des débattements réduits, des protections sur les flancs du réservoir et un garde-boue avant collé à la roue. Donc on voit clairement que Honda cherche à étoffer sa famille de motos taillées pour le marché indien et bâtie autour du même monocylindre de 348 cm3 à refroidissement par air qui délivre environ 21 chevaux et 30 Nm.
C'est-à-dire à peu près les valeurs de la Météor.
Mais maintenant, est-ce que ça se traduira par vraiment un duo de trail et de scrambler?
Bon, en attendant, il se susurre que Honda travaille quand même sur l'importation de cette 350 qu'on pourrait donc voir arriver en France.
Alors côté trail, effectivement, Cove, qui n'arrête pas d'annoncer des nouveautés, lance aussi un petit trail typiquement pour le permis A2 avec la 510X
Adventure.
Alors là, en ce moment, tout le monde se lance sur ce segment des trails. Ça sent, là, il y en a partout.
Partout, et puis toujours avec ce fameux bicylindre en ligne qu'on retrouve dans toutes les cylindrées, de la 500 à la 800, pour ne citer qu'elle.
Donc là, c'est un 498 cm3, 47,6 chevaux et 45 Nm de couple. On a des suspensions Kayaba avec une fourche inversée de 41 mm réglable en précharge et un amortisseur progressif entièrement ajustable. On a des jantes à rayons de 19 et 17 pouces qui sont de chaussée de pneus Metzeler. Un freinage qui est confié à Nissin avec deux étriers flottants bordant des disques de 298 mm à l'avant. Un poids qui n'est pas tout léger, 205 kg en ordre de marche pour un 500 cm3, c'est pas léger, mais bon. Une hauteur de selle à 830 mm.
Ouais, mais heureusement, le poids, 205, oui, comme disait Sandrine, c'est un peu limite, mais oui, Cove, Benelli, on retrouve des poids à peu près similaires sur ces modèles chinois.
Pour l'instant, la disponibilité n'est pas française, mais ce modèle est disponible déjà en Italie au prix de 6 990 €.
Ce qui le place quasiment au prix de certaines japonaises dans cette gamme de prix-là. La concurrence va devenir très très dure. Au moins on a le choix, mais en attendant, en termes de prix, c'est vrai qu'on penche encore un tout petit peu du côté des japonaises ou des européennes.
Alors côté Roadster, MBP, qui est la marque de
premium
de Kiwi, a lancé, n'arrête pas de lancer des 125, des 500, et maintenant c'est le tour des modèles 250 et 300 cm3.
Et ça c'est fou, hein, franchement, parce qu'il y a eu une course à la cylindrée, et on a vu encore dernièrement cette fameuse course à la cylindrée avec la 1390 KTM Duke, Super Duke, que vous pouvez retrouver en essai, en vidéo, sur le repère des motards, et c'est super bien, franchement, de voir des plus petites cylindrées arriver, c'est pour ça qu'on vous en parle de plus en plus. Parce que cette course à la puissance et à ses prix stratosphériques, eh bien, quand même, revenons raisonnables au jour le jour. C'est quand même très sympa, ces petits modèles.
Alors, c'est deux roadsters très proches, puisqu'il n'y a que quelques centimètres cubes d'écart. Le 250, c'est un 249 cm3 qui délivre 26,5 chevaux et 22 Nm, tandis que le 300 est un 298 cm3 qui atteint les 29,5 chevaux et les 27 Nm.
Ce qui est quand même pas trop mal si on compare aux 20 chevaux d'une Météor ou d'une CB350 dont on parlait.
Le poids là est quand même raisonnable puisqu'on est à 145 kg à sec pour
et là,
les deux modèles. Là c'est bien. Une selle à 795 mm.
Ce qui la rend accessible pour tous les gabarits, et encore plus quand on le sait sur des poids légers, parce que finalement, le poids, il va se retrouver bien placé.
Et c'est surtout que l'empattement est très court sur ce modèle, puisqu'elle a 1360 mm d'empattement, ce qui lui fait une bonne maniabilité pour la ville.
Ouais.
À suivre, car pour l'instant, ces modèles ne sont toujours pas annoncés pour la France.
Eh oui, il va falloir attendre un tout petit peu, même si Kiwi en France est une marque anciennement installée. Ouais, la marque MBP a un tout petit peu plus de mal à arriver.
Alors, côté sportive.
Et la Benelli est surtout un modèle mythique.
La Tornado.
Et ici, en 400 cm3. On vous l'a dit, on aime bien ces petites cylindrées. C'est vraiment sympa de les voir revenir. D'autant plus que bien chez Benelli, vous le savez, il y a une gamme depuis la 125 jusqu'à la 800 qui est juste énorme. Et bien, logique de plateforme, ça vaut le coup de les décliner. Et notamment avec des prix plus accessibles.
Donc, elle était apparue sous le nom de Tornado 402 en Chine au printemps dernier, mais ça devient maintenant du coup la Tornado 400 pour le marché européen. Mais on a encore quelques petites questions sur le temps. Le modèle est proche du modèle de la sportive 500, justement de la fameuse Tornado 500. Puisque visuellement, la 400 présente des lignes plus fluides que la 500, mais tout aussi dynamiques, voire même plus proches de ce que l'on peut attendre d'un design italien. Le moteur est en revanche assez différent, puisque là on a un bicylindre en ligne à double arbre à cam en tête de 399 cm3 qui présente une course courte. Mais en revanche, les performances brutes sont très proches de la 500 avec la même limite de 47,6 chevaux, bien sûr pour que ça aille au permis à deux.
Ce qui n'est pas toujours le cas, on a vu qu'un certain nombre de modèles de constructeurs chinois font 50 voire 55 chevaux et dont la puissance est ramenée aux 47 chevaux et demi pour l'Europe.
Et un couple qui atteint 38 Nm contre 46 Nm sur la 500, donc là il y a quand même un écart. Elle est homologuée Euro 5 avec un embrayage anti-dribble et une boîte à 6 rapports. Et on a une injection Delphi. Pour l'instant, on n'a aucun tarif qui a été annoncé pour cette Tornado 400, mais elle devrait arriver au premier semestre 2024, donc c'est-à-dire maintenant. On va plutôt dire certainement fin du premier semestre 2024.
Oui, parce qu'il y a encore des Benelli qu'on attend et dont on parle depuis plus que des mois, des années quasiment, depuis qu'on les a vus apparaître. Mais en tout cas, c'est sympa qu'elles apparaissent, parce qu'à force, oui.
Elles vont bien arriver.
Elles vont bien arriver.
Allez, côté cross, c'est vrai que Triumph nous a annoncé et a commencé à lancer des modèles de cross.
Et à s'engager en championnat du monde. Donc, il n'y arrive pas par la petite porte, mais par la grande porte, en prenant en plus des anciens champions pour arriver à affiner leur moto. Et Ducati fait exactement la même chose en prenant des champions, mais c'est vrai qu'entre une Street Fighter et puis une moto de cross, on a un petit peu de mal à voir la logique, mais en tout cas, la logique, c'est naturellement d'avoir une gamme de plus en plus importante, et ça, c'est bien aussi que les constructeurs européens, au-delà des logiques de plateforme, construisent justement plus de modèles pour les voir un petit peu plus sur la piste, et avec le championnat du monde MotoGP largement remporté par Ducati lors des deux dernières éditions, bah, ça va être très très sympathique de voir triompher Ducati arriver également dans le motocross.
Et donc c'est le modèle Desmo 450X qui est le premier prototype de la division Corse Off-Road de Ducati.
Oui, alors pas en Corse, hein, c'est le département Corse.
Course,
le département course.
Voilà. Et donc l'objectif de cette année, c'est bien sûr de récupérer un maximum de données d'informations pour assurer le développement de la gamme et du modèle Desmo 450MX qui sera ensuite mis en production au premier semestre 2025, donc dans un an.
Et c'est Alessandro Lupino qui participera à l'ensemble des manches du championnat.
À suivre, dès le mois de mars.
Et puis Aprilia, les petites sportives, on ne vous arrête pas de vous parler des plateformes. Vous l'avez vu, hein, les plateformes 660, notamment entre la Touareg, entre le Roadster et la petite sportive avec l'ARS. Eh bien, en 457, la sportive était déjà sortie, mais on n'avait pas encore vu le Roadster. Et rien de plus proche chez Aprilia entre les RS, notamment les RSV4 et les Tuono. Et qu'ici, avec une probable future Tuono 457 où... Franchement, même le carénage en partie en haut, il est quasiment identique. Il y a juste que les flancs de carénage qui ne sont plus là. Ce qui explique aussi que les prix, souvent entre les RSV et les Tuono, à part quelques petites modifications, soient très très proches, mais ça va encore dépoter.
Alors là, c'est des photos, entre guillemets, volées sur la route qui ont été prises. Mmh. Surtout une photo d'ailleurs, il ne fallait pas la louper, qui laisse dévoiler une moto effectivement décarénée, qui est propulsée par le même moteur bicylindre taillé pour les permis à deux. Par contre, là, pour une fois, les différences entre la sportive et le roadster sont plus présentes qu'à l'accoutumée. On a plutôt un style néo-rétro sur ce modèle, alors que d'habitude, les Tuono sont plutôt des roadsters sportifs, alors que là, le phare rond fait plus un style rétro. Maintenant, est-ce que c'est un phare temporaire ou est-ce que c'est le phare du modèle à suivre?
On se rapprocherait presque plus d'une Speed 400 comparativement, oui, que d'une Tuono mode RSV, comme ça se faisait habituellement chez Aprilia. Et là encore, ce qui est bien, bah, c'est que toutes les plateformes sont en train d'être utilisées pour élargir le choix et puis le choix de la moto sans contrepétrie.
Alors voilà, c'est tout pour les nouveautés de cette semaine, mais...
Mais vous savez, on aime bien vous parler des hommes, parce que le repère des motards, c'est ça, ce sont des hommes et des motards. Dans l'équipe, il y a un motard, mais qui a un pédigré aussi long que le bras depuis des années. Il est plus âgé que Sandrine et que moi, notamment dans la presse moto en tant que journaliste, mais pas uniquement en tant que journaliste moto, mais dans la presse quotidienne, la fameuse PQR, et pas seulement, parce qu'il a effectivement écrit dans Midi Libre ou dans Libération, ce qui ne sont pas franchement des journaux moto, mais par contre, il a écrit également dans Moto Journal ou dans L'Échappement, et ça depuis 1975, donc autant vous dire qu'il a un sacré historique, mais surtout son historique, c'est que c'est un sacré motard. Un sacré motard qui a monté son association, qui s'appelle également Les Motards en Balade, qui a jusqu'à l'année dernière réalisé les 100 cols. Les 100 cols, c'était quoi? C'était 100 cols montagneux, soit dans les Pyrénées, soit dans les Alpes, en moins d'une semaine. Et ça, franchement, au rythme où ils allaient, c'est juste ouf, parce que des étapes de 300 km par jour en pleine montagne, donc vous imaginez toutes les épingles qu'il faut se taper, avec un record de 127 cols en une semaine. Quand on dit 100 cols, ce n'est pas 100 cols pile poil. Quand il faut en prendre 27 de plus dans la même semaine, ça titille pas mal. Donc, une vraie puissance, une vraie plume. Vous pouvez en retrouver un certain nombre d'essais sur le repère, pas en vidéo.
Il s'appelle comment, ce monsieur?
J'ai pas donné son nom.
Non.
Il s'appelle Hervé.
Voilà.
Hervé Descamps. Et vous nous demandez souvent quelles sont les motos justement de ces motards de cœur au sein de l'équipe du Repère. Et alors lui, il a un garage qui est rempli, il a enchaîné les vraies motos. Allez, on va pas faire de départ.
Il y a beaucoup de néo-rétro, de rétro, on va dire.
Ouais.
De la BSA 650, de la Java 350. Yamaha 350 RS.
Oui, pas loin de la CB, mais sa CB, ça a été une CB 750, logique, dans les grandes années.
Il a eu les fameuses diversions, la 600 et la 900.
Et puis, notamment les Kawasaki H1, H2 et H3, jusqu'à un accident. Vous parlez de temps en temps des animaux qui traversent quand il ne faut pas. Ben oui, un jour, il s'est pris plein de moutons. Le mouton n'a pas aimé, mais la moto non plus, en fait.
Et puis des triomphes, les T3, les Bonnie. Et même une Tiger.
Les derniers essais qu'il a fait sont pour le repère des motards, et c'était notamment les CF Moto, parce que lui, il est dans les Cévennes. Et quand on vous parle de Cévennes, on vous invite à revoir, si vous ne l'avez, ou à voir tout simplement l'échappée motarde dans les Cévennes, qui nous tient à cœur, mais c'était aussi grâce à lui qu'on avait visité et vécu. Donc il connaît les petites routes, il connaît les roadbooks, il a été l'initiateur de plein de roadbooks sur le repère des motards. Donc voilà. Un motard qui roulait des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres chaque année. Maintenant, il aime bien faire des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres à la mer, en partant à la pêche sur son bateau également. Mais non, il continue à faire plein de motos à retrouver sur le repère.
Alors, la vidéo de la semaine.
Ah ben, celle-là, elle fait pas peur. Non. Celle-là, c'est une jeune femme.
Qui doit pas être plus grande que moi, donc même pas 1m60.
Tout aussi menue que toi.
Et qui, roule sur une belle cylindrée avec des super grosses valises. D'ailleurs, vous voyez que derrière, les mecs, ils ont pas les valises. Donc, c'est elle qui se tape les bagages, n'est-ce
ouais,
pas
en plus.
En plus hein. Et bien, comme ça arrive quand on fait du tout-terrain ou de la route mal goudronnée, et bien ça arrive de poser les valises justement au sol, et là, il faut arriver à les remonter.
Et donc, la mauvaise méthode, bien sûr, c'est ce qu'elle commence à faire, c'est d'essayer de la relever par l'avant. Là, c'est coup de rein
assuré,
c'est l'imbago, voire sciatique assuré par derrière. Et enfin, au deuxième coup, elle s'est rappelée de ses cours, parce qu'elle en a manifestement eu, parce que c'est pas obligatoirement naturel. Mais on se place dos à la moto, avec les pieds bien en avant. On tient à la fois l'arrière, le porte-paquet, et puis on reprend le guidon avec soi. Et puis, on pousse sur les pieds. Et franchement, moi qui ai des hernies discales, qui dois faire hyper gaffe à mon dos, qui suis hyper sensible, j'ai pu faire ces exercices-là 10 fois dans la journée pour essayer de le recommencer, notamment avec des chutes en enduro. Franchement, vous en sortez, vous avez pas mal au dos, c'est sans effort. Et au moins, au bout du troisième remontage de moto, vous n'êtes pas en train de suer et de gueuler. Parce que c'est dur de remonter une moto qui est tombée à l'arrêt. Voilà, ça, c'est la vraie méthode pour remonter, notamment un grand trail sur ses roues.
Et les essais de la semaine.
Eh bien oui, les essais, ils continuent, mais à un rythme effréné entre Zef, qui est reparti, notamment...
Avec la Yamaha MT-09.
Eh oui, on espérait qu'il ferait aussi la MT-09 SP, parce qu'elle est mieux dotée en amortisseur. Et le problème et la faiblesse connue de la MT-09, ben, c'est bien son amortisseur arrière quand on commence à pousser. Et donc, il vous dit tout sur cette nouvelle version de la MT-09, qui est une vraie nouveauté 2024.
Sur les superbes routes de Lanzarote.
Et oui, il y en a qui ont de la chance. C'est toujours les meilleurs qui vont dans les Canaries et sur les îles pour essayer les motos.
Et puis Damien, lui, a essayé la nouvelle BMW R1290.
Et oui, on disait que ce serait une mini R18. Ah, c'est pas tout à fait ça. Mais en attendant, les images sont à nouveau fabuleuses. C'est toujours Damien et les essais continuent parce que les deux sont repartis respectivement sur de nouveaux essais. Bref, les essais continuent sur le repère et vous allez en retrouver plein la semaine prochaine également.
Et bien voilà, c'est tout pour ce numéro 94.
Merci encore pour tous vos commentaires, merci pour toute votre bienveillance, merci pour tous ces échanges qui nous font chaud au cœur. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, pensez à vous abonner. Merci encore parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission chaque semaine. Et d'ici la semaine prochaine, on vous dit...
Ciao.
Ciao.
Et puis, il fallait une sportive.
Avec la Tenelli Borneo. Borneo. Oui, c'est l'absus révélateur. On l'avait dit, les légendes d'automne ?
Bah oui, c'est ce que tu as dit avec Anthony Hopkins.
Non, c'est toi qui avais dit les légendes d'automne.
Non, on l'a dit.
T'es sûr ?
Bah, dis légendes d'automne.
Bah, c'est toi.
Légendes d'automne.
Ça s'entend beaucoup, tu crois ? Je m'en rends pas compte, parce qu'elle a une voix qui porte, en fait, alors qu'elle parle pas fort, la dame. Eh bien, Ducati, à la grande surprise générale...
Fait la même chose.
Putain, je suis coupé, on me censure.
Excuse-moi, vas-y.
Non.
Ducati...